Vous écoutez RTL.
RTL Matin, 7h45. Jérôme Chapuis, vous recevez ce matin le député de l'Ain et vice-président des Républicains.
Bonjour Damien Abad.
Bonjour Jérôme Chapuis.
2017 s'était achevé sur un bilan terrible, plus de 65 suicides dans les forces de l'ordre en un an. 2018 commence avec cette image révoltante d'une femme, gardien de la paix, frappée à terre sous les quolibets des témoins. L'indignation, c'est une chose, mais les policiers réclament des solutions. Que proposez-vous qui n'ait pas encore été mise en place ?
D'abord, je voudrais avoir une pensée à ces policiers qui ont été encore une fois victimes de la barbarie. Les policiers ont raison. La compassion et l'indignation ne suffisent plus. Il nous faut effectivement agir vite et fort. Nous demandons le rétablissement des peines planchers. Nous demandons également de stopper le désarmement pénal qui a été lancé par Madame Taubira. Et nous demandons tout simplement de remettre le policier dans une place centrale pour que la peur change de camp. Et donc, c'est très important que nous ayons un arsenal juridique qui soit à la hauteur des enjeux de notre pays.
Alors, parlons des peines planchers, puisque il se trouve que le Premier ministre Édouard Philippe vient de dire chez nos confrères de France 2 qu'il n'était pas question de les rétablir.
Je pense qu'il fait une erreur. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les Français ont davantage besoin des peines planchers, notamment pour ceux qui commettent des actes à l'égard de ceux qui portent l'uniforme, davantage cela que la police de sécurité quotidienne. Et je pense que c'est voir la France avec une loupe déformante. Parce que la réalité, et le rapport sur l'Île-de-France le démontre, c'est que les événements du 31 décembre ne sont pas bien passés en France. La réalité, c'est qu'il y a une fracture sociale et sociétale de plus en plus forte. Et la réalité aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui une grande souffrance chez les policiers. Et de faire une fin de non-recevoir au moment même où les syndicats de police eux-mêmes demandent cette mesure, en appel à Emmanuel Macron directement, je pense que c'est une lourde erreur et le gouvernement emportera toute sa responsabilité.
Une peine planchée, la certitude d'avoir une sanction minimale quand on s'en prend à des représentants de l'autorité publique, pour vous c'est efficace? Parce qu'il y a un débat sur l'efficacité.
À nous de la rendre efficace. Bien sûr que les peines planchées ne suffisent pas à elles seules pour endiguer le phénomène. Mais je pense que c'est un premier élément très important. Quel est aujourd'hui? Les policiers se sentent désarmés face à finalement le sentiment d'impunité qui règne dans nos pays, face au fait que beaucoup de mesures de peine ne sont pas exécutées, face au fait que avec le non-rétablissement de ces peines planchées, on donne le sentiment qu'on généralise ce sentiment d'impunité. Donc il nous faut cette mesure-là, pas seulement, il y en a d'autres, il faut aussi travailler sur les effectifs, il faut donner davantage de moyens aussi aux policiers, mais je crois qu'aujourd'hui, fermer la porte sur ce sujet est une erreur de la part du gouvernement.
Les effectifs, les moyens, on vous répondra que les effectifs des policiers, ils ont baissé sous Nicolas Sarkozy.
Oui, et je le sais, je le regrette profondément, parce que je crois qu'on a besoin d'un État régalien où sur la justice, sur la police et les armées, c'est pas là où on pourra faire des économies, parce qu'on doit répondre aux nouvelles menaces qu'il y a sur la lutte contre le terrorisme, qu'il y a au niveau international et qu'il y a aussi sur le plan de la sécurité intérieure. Et je pense qu'il faut surtout les moyens les déployer au bon endroit et au bon moment, pas dans la police de sécurité quotidienne, qui est finalement une police de pacotille. On a besoin, nous, davantage d'une police qui assure la sécurité des Français.
Une police de pacotille, pourquoi? Elle peut être aussi utile pour faire du renseignement, pour être au contact de la population et justement éviter ce type d'incident qu'on a vu en fait le soir du réveillon. Voilà, c'est un incident qui a dégénéré.
Ça s'appelle la prévention. Et la vérité, c'est que la police, elle agit aussi et d'abord et avant tout sous l'angle de la répression. Et on le sait bien aujourd'hui, ce n'est pas la police de sécurité quotidienne qui aurait empêché les événements du 31 décembre. Et que donc, il nous faut une police qui soit suffisamment en capacité de pouvoir agir dans ces quartiers sensibles. La police de sécurité, c'est la police finalement pour les quartiers sans problème, sans difficulté. Eh bien, nous, on a besoin d'une police qui réponde aux enjeux et aux difficultés de la France.
Alors, pour les quartiers justement qui sont en difficulté, est-ce que, on sent bien, il y a un défi à l'autorité, est-ce qu'il y a aussi un défi d'éducation selon vous?
Oui, bien entendu que au-delà de la politique pénale, au-delà des moyens donnés aux policiers, il faut aussi revoir notre politique éducative. Cela a commencé à être fait, mais on voit bien qu'aujourd'hui l'échec des jeunes dans leur scolarité, l'échec de réinsertion aussi de celles et ceux qui finalement n'ont pas de travail, l'échec aussi de la politique du logement en France et de la politique de la ville, où on voit bien qu'on a construit des ghettos, où la vérité c'est qu'on a construit des tours, finalement tout ceci a fracturé la société. Et aujourd'hui la société française, elle est face à de multiples fractures et que donc forcément la réponse doit être globale. Mais il doit y avoir des mesures d'urgence, d'action prise tout de suite et ensuite effectivement une réforme de grande ampleur pour réussir ce qu'on n'a jamais réussi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de pouvoir recréer recréer du lien social entre les Français.
Alors, il y a un autre débat ce matin, Damien Abad. Le ministère de la Justice, on l'a appris hier, va généraliser les téléphones fixes dans les prisons, à l'intérieur des cellules. C'est un moyen de briser l'isolement, de permettre, selon certains, la réinsertion. C'est ainsi que c'est présenté. Est-ce que vous voyez cela d'un bon œil ?
Je me mets à la place des Français qui nous écoutent ce matin et qui nous disent « Moi, j'ai pas accès à la 3G, j'ai pas accès à la fibre optique, j'ai pas accès parfois au téléphone portable et on va mettre des téléphones fixes dans les prisons. » Je crois pas que ça soit la première des préoccupations. La réalité aujourd'hui, c'est quoi dans le milieu carcéral ? C'est qu'il manque de place. La réalité, c'est qu'on doit construire 10 000 places de prison en 5 ans dans ce pays. La réalité, c'est qu'on doit d'abord mettre en place des cellules individuelles avant même de considérer la question du téléphone fixe. Et puis, excusez-moi, mais je trouve ça un petit peu paradoxal de vouloir installer des téléphones fixes pour lutter contre le trafic de téléphones portables.
Alors, certains disent que c'est justement que les expérimentations ont démontré que ça permettait de réduire le nombre de téléphones portables, puisque les détenus, justement, ont besoin... ce qu'ils cherchent d'abord, c'est d'avoir un lien, alors un lien contrôlé, hein, puisque ce serait le principe de cette expérimentation, mais ça permettrait de réduire le nombre de téléphones
justement,
portables.
Justement, la question du contrôle pose aussi et suscite des interrogations. C'est la difficulté des moyens dans le milieu carcéral, c'est la difficulté déjà de contrôler, on appelle les points faune dans les prisons, et que donc là, ça sera encore plus difficile. Je dis que ce n'est pas la priorité du moment, et que là encore, le gouvernement, il y a un décalage entre la réalité et les propositions, il y a un décalage entre les mots et les actes. La réalité, c'est qu'on a besoin de davantage de places de prison, davantage de cellules individuelles, et de faire en sorte que la prison soit un lieu de réinsertion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce n'est pas en installant des téléphones fixes qu'on va résoudre ce problème-là.
Alors Damien Abad, Emmanuel Macron va présenter ses vœux au Conseil constitutionnel aujourd'hui, après la rentrée du gouvernement ce matin, et il doit préciser les contours de la réforme des institutions qu'il souhaite engager cette année, ça faisait partie de ses promesses de campagne. Il y a plusieurs points, d'abord, la baisse du nombre de parlementaires, vous y êtes favorable ?
Oui.
Vous souhaitez, donc vous voterez éventuellement cette loi si elle devait vous être présentée. Vous faire harakiri. Non,
ce sont deux choses différentes. La baisse du nombre de parlementaires, j'y suis favorable parce que je pense qu'aujourd'hui que notre pays peut être gouverné tout en ayant un nombre d'élus qui correspondent finalement à la société moderne. Mais je dis simplement que la réforme des institutions, elle est beaucoup plus importante que cela. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est la pratique des institutions qui pose problème. La pratique d'un monarque où vous avez en gros la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, c'était une promesse de dépassement du clivage droite-gauche. Et la réalité du gouvernement, c'est aujourd'hui la réalité du parti unique, où ses propres députés, La République En Marche, n'ont même pas le droit de co-signer un amendement avec d'autres groupes politiques. Ça ne s'appelle pas le dépassement du clivage droite-gauche. Donc on voit bien là encore le décalage qu'il y a entre les promesses d'un jour et la réalité aujourd'hui. Et la réforme des institutions ne pourra masquer et cacher cela.
Dans cette réforme des institutions, il y a un point qui concerne les territoires. Devant les maires de France, Emmanuel Macron avait dit, il avait plaidé pour un droit à la différenciation, autrement dit, toujours plus de décentralisation. Ça ne risque pas d'accentuer encore un peu plus la fracture entre les territoires, selon vous ?
Je crois qu'aujourd'hui, la fracture territoriale est un enjeu fondamental. Je préside d'ailleurs une mission sur la France des territoires qui vise justement à répondre à cette France rurale, à cette France qui souffre, mais qui souffre en silence. Il faut lui apporter des réponses. Le droit à l'expérimentation, mais aussi le droit au respect et le droit à l'autonomie financière et fiscale. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a fait ? On a supprimé la taxe d'habitation, on a baissé les dotations de l'État, on a grevé notamment sur l'eau, sur l'assainissement, on a mis à mal et mis au pilori les collectivités locales, on leur demande sans cesse toujours plus d'efforts, les efforts que l'État ne s'applique même pas à lui-même. Et donc cette fracture territoriale grandit. J'ai entendu hier encore les débats sur le passage à limitation de vitesse à 80 km/h. Je dis très bien, mais il y a un des moyens de diminuer le nombre d'accidents, ça sera aussi de mettre le paquet sur les investissements sur nos routes. J'ai été président d'un département, l'une des causes premières d'accidentologie, c'est justement le mauvais entretien, le mauvais état des routes parce que les collectivités locales n'ont parfois plus les moyens de l'assurer. Eh bien là aussi, je pense qu'il faudra, l'enjeu de la fracture territoriale sera un enjeu très important sur ce quinquennat.
Et plus de décentralisation à l'heure où les autonomistes renforcent leur pouvoir en Corse, c'est un risque pour la République une et indivisible ?
Non, mais la République une et indivisible n'empêche pas la République décentralisée. Bien au contraire, la République une et indivisible, c'est pas une République jacobine, ce n'est pas une République où tout se concentrerait sur une seule grande ville. Je crois bien au contraire qu'il faut libérer les énergies, donner la possibilité aux régions, aux départements, aux collectivités locales de pouvoir tout simplement gérer localement un certain nombre de choses et leur faire confiance. Ce pacte de confiance aujourd'hui, il est malheureusement rompu.
La République une et indivisible, est-ce qu'elle doit s'opposer au fait que le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, s'exprime dans sa langue corse, comme il l'a fait hier, on l'a entendu dans le journal de 7h30, pour le discours inaugural de son mandat ?
écoutez, il y a déjà eu une charte qui avait été adoptée sur la reconnaissance d'un certain nombre de langues régionales et autres. Je dis simplement aujourd'hui qu'on a bien, on a besoin d'un État en Corse. Et on a besoin d'un
dialogue. Le fait qu'il se soit exprimé en Corse, dans sa langue corse, est-ce que ça vous a choqué ?
Ça ne m'a pas choqué à titre personnel. Je dis simplement que la langue, c'est le français aujourd'hui et que la Corse fait partie de la France. Elle a un droit à la différenciation, elle a un droit à l'expérimentation. Il y a aussi l'insularité à en prendre en compte, comme c'est le cas également pour les Outre-mer, mais que le droit à la différenciation, ce n'est pas la dislocation de l'unité et de la République française.
En 2018, Damien Abad, ça va rester compliqué pour la droite de s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron, notamment en matière fiscale.
Je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les mots sont de droite, mais la réalité est de gauche. Quand on augmente la CSG, ce n'est pas une politique de droite.
Mais François Fillon, lui, voulait augmenter la TVA. Qu'est-ce qui est différent ?
Ça n'a absolument rien à voir, parce qu'augmenter la TVA, c'est taxer les importations, et c'est renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Augmenter la CSG, c'est matraquer les classes moyennes, ceux et celles et ceux qui travaillent, les retraités, les salariés, les agriculteurs, les indépendants, les jeunes et autres. C'est 23 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. C'est la feuille d'impôt que les Français vont voir fin janvier qui va témoigner de ce qu'a dit l'INSEE, c'est-à-dire une augmentation de 4,5 milliards d'euros d'imposition supplémentaire et qui va donc abîmer encore une fois le pouvoir d'achat des Français. Ça sera le grand combat de la droite dans ces premiers mois que celui de lutter contre cette politique fiscale injuste.
Et l'autre grand combat, ça va être de rester unis, hein.
Oui, mais ça, c'est un combat, effectivement, de long terme. Mais nous y croyons parce que nous avons une équipe jeune, renouvelée, dynamique, autour de quelqu'un, Laurent Wauquiez, qui a été élu, qui a une légitimité populaire et démocratique incontestable dans notre famille politique. À nous, désormais, de retrouver le chemin de l'audace et du courage.
2018 ne peut pas être pire que 2017 pour la droite.
On peut se rassurer comme cela. Je crois surtout que 2018, c'est une nouvelle page. C'est une nouvelle ère. C'est le moment pour la droite de s'affirmer non seulement comme une force d'opposition, mais surtout une force d'alternative. Ce ne sera pas une opposition systématique, ce sera une opposition d'une droite libre et responsable qui, quand c'est bien pour le pays, le votera, mais quand c'est pas bien, le dira avec force et conviction.
Merci beaucoup Damien Abad d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.